11h passée de 3 minutes sur Radio Campus Tour. Vous écoutez La Méridienne et je fais suite à la brillante émission de Guillaume Singal. I love mes cheveux, son invité. Vous l'avez reconnu, c'était Priscille Hatoy. Et voilà, donc j'espère qu'on aura le plaisir de les entendre à nouveau tous les deux sur nos ondes. Alors, pour ce qui est de La Méridienne aujourd'hui, eh bien, nous allons commencer par écouter une interview au sujet de nos belles radios associatives. Et bah oui, voilà, vous allez dire c'est un peu auto-centré peut-être, mais je ne parle pas que de Radio Campus Tour et du réseau Radio Campus France. Je vous invite à découvrir Radio Super, SUPEYRES, voilà, comme le col des super. Et nous allons écouter l'interview donc de Gaston Bellamy, qui est un des trois fondateurs de cette radio. On se retrouve tout de suite après. Et si la technique est avec nous, eh bien nous aurons le plaisir d'avoir un invité à distance, Yves Tillet, qui nous parlera de la semaine du cerveau. Allez, à tout à l'heure. Je vous laisse en compagnie de Gaston Bellamy de Radio Super.
Super, c'est une radio, alors c'est Super, SUPEYRES, pour les personnes qui auraient envie d'aller écouter la super programmation, les super émissions, comme le col des super, qui est un col qui se situe entre Ambert et Montbrison, dans les monts du Forez. Peut-être que ça vous dit rien, et peut-être que ça vous dit quelque chose si vous aimez le fromage, puisque à Ambert, il y a la forme d'Ambert, et à Montbrison, il y a la forme de Montbrison. Et donc, Ambert s'est situé tout au bout du Puy-de-Dôme, un endroit que personne ne connaît en général. C'est une petite ville qui est une sous-préfecture au fond d'une vallée. Et c'est une ville de 6000 habitants, tout de même une sous-préfecture, car c'est un peu la grosse ville du coin et qui propose pas mal de services, enfin qui a pas mal de services quand même pour une petite ville.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette ville Ambert du Puy-de-Dôme ?
Ben, on trouve la seule mairie ronde de France et d'Europe, je crois. On rencontre pas mal de gens. On trouve des associations aussi. Et on trouve aussi du loyer, ou non, des logements plutôt, des propriétés pas très chères. Ce qui est un peu une spécificité. Alors, comme c'est loin de tout, il y a par contre, on ne trouve pas le train et on trouve difficilement des bus. Et il faut sortir de la vallée, donc c'est un peu long en voiture ou à vélo. Donc l'immobilier étant très peu cher, il y a beaucoup de gens qui s'installent là-bas et qui achètent des maisons, qui les retapent et qui n'ont pas quand même pour optique de travailler, faire que de travailler. Donc ils ont du temps et ils donnent ce temps-là pour des associations notamment et pour faire des choses avec d'autres gens. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup de choses associatives qui se passent et il y a un petit réseau assez intéressant.
Alors c'est quoi comme asso ?
Tout type. Ça peut être des assos d'aide aux migrants, des assos de sport, des assos qui accueillent d'autres assos dans des lieux. Ça peut être des radios, ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Et aussi beaucoup de choses informelles qui arrivent sous le format plutôt collectif, de collectif informel.
Alors collectif informel, gens qui achètent des maisons, on voit peut-être se dessiner un profil particulier de cette peut-être nouvelle population qui est arrivée à Ambert. Est-ce que c'est des Parisiens qui ont migré pendant le Covid ?
Alors pas du tout. Alors raté. Parce que je pense que c'est pas assez cher pour les Parisiens. Et la raison pour laquelle c'est pas assez cher, c'est que c'est très peu attractif. Du coup, c'est plutôt des gens qui soit ont un tout petit peu de sous et préfèrent l'investir dans une maison dans le Livradois Forez où clairement il y a pas grand chose à faire. C'est très rural quand même comme endroit. C'est un peu particulier. J'ai pas trop d'autres points de comparaison. C'est peut-être la Drôme d'il y a 40 ans, quoi. Peut-être un peu ce truc-là de néo-ruraux qui veulent s'installer pour le confort de vie sans avoir une situation forcément très confortable ou très. Mais plutôt des gens qui veulent quitter l'espace urbain. Et là, on est plutôt loin de beaucoup d'espaces urbains. Même si Amberg est une petite ville avec beaucoup de choses, on pourrait quand même se classer dans un milieu rural.
Donc ce n'est pas forcément des résidences secondaires, c'est vraiment des gens qui viennent habiter à Amberg.
Ouais, alors pour les gens qui font des choses, il y a quand même beaucoup de résidences secondaires, surtout dans la montagne, puisqu'il y a Lyon, pas très loin, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand. Mais de manière générale, il y a quand même plus de maisons en ruine que de maisons résidences secondaires, sauf peut-être à certains endroits qui sont un peu prisés, comme à Valcivia.
Et alors c'est qui ces néo-ruraux, puisque ce n'est pas des migrants de Paris? Qui sont-ils? Elles aussi.
Qui sont-ils? Ben, ce sont... c'est une bonne question. Ce sont des gens qui viennent soit pour travailler dans des associations. J'essaie de trouver tous les... Soit des gens qui ont trouvé un travail dans une entreprise du coin. Ou soit vraiment, il y a souvent des gens quand même qui arrivent parce qu'ils cherchent maison sur le bon coin à moins de 20 000 euros. Et il y a soit la Creuse, soit le Livre de Forez.
Mais en fait, ça veut dire que ça dessine peut-être aussi une population particulière. Oui. Des gens qui ont un budget, c'est 20 000 euros pour acheter une maison et pas plus.
Voilà, ça. Bon, même s'il y a des maisons un peu plus chères quand même, mais c'est souvent ça arrive comme ça, ou par affinité. Il y a beaucoup d'histoires, on aime bien les histoires chez nous. Il y a des gens qui sont arrivés, en fait ils traversaient et ils sont tombés en panne de voiture, et ils ont rencontré des gens. Il y a des gens qui... Il y a une personne qui était sur le marché d'Amberg, qui est maintenant une bénévole de la radio, qui était sur le marché d'Amberg et qui discutait avec des gens. Elle était de passage pour voir des potes à un endroit à côté d'Amberg. Et y a un gars, je crois un chef cuistot avec qui elle parlait, qui lui dit « Bah moi je suis chef cuistot sur des bateaux, là je m'en vais 6 mois, si tu veux je te passe ma maison pendant 6 mois. » Voilà, les gens arrivent un peu de cette façon-là, un peu soit par accident, soit par amitié, soit parce que c'est pas cher.
Pour les néo-ruraux, 100 ans. Et alors, est-ce qu'il y a des écoles, collèges et autres à Amberg?
Oui, il y a 2 écoles, une privée et une publique. Il y a 2 collèges, un privé et un public. Et il y a un lycée général et un centre de formation pour adultes et un Greta et un CAP.
Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même, j'imagine, une population jeune aussi.
Non.
Non, d'où viennent alors ces écoliers, ces collégiens?
Si, il y a ces jeunes-là du coin, mais oui, jeunes, très jeunes, oui. Mais après le lycée, il y a soit les personnes qui sont du coin, qui restent dans le coin parce qu'elles ont trouvé un travail, soit les personnes vont étudier et s'en vont pour revenir peut-être plus tard, peut-être pas.
Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes âgées?
Il y a beaucoup de personnes âgées.
Voilà, donc ça, je pense que c'est intéressant aussi pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Amberg, d'essayer de comprendre en fait qui habite là, qui fait quoi, comment ça se passe. Et justement, est-ce que ces personnes âgées, donc peut-être qui ont toujours vécu à Amberg ou alentour, est-ce que ça s'entend bien avec les néo-ruraux?
Alors c'est assez perméable quand même, ces populations. Même s'il y a une volonté peut-être un peu de tout le monde de vivre ensemble. Il y a un truc très... c'est quand même assez rural et les gens se regardent un peu en chien de faïence ou se regardent pas, mais en fait comme c'est assez petit, on connaît rapidement, on échange rapidement avec plein d'autres milieux. Donc c'est assez perméable dans les lieux, on va dire, mais les gens se croisent quand même parce qu'il n'y a pas une grande... variété de bars on finit par se croiser. Et il y a des événements qui sont proposés, qui peuvent attirer les uns ou les autres. Et après, il y a forcément de chaque côté, comme partout, des gens qui ne supportent pas les autres, et puis dans tous les camps, quoi, on pourrait dire.
En fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas trop le choix, quoi. À moins de vouloir être ermite, en fait, vous devez faire avec les gens qui sont là.
Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit à un moment, en fait. Ouais, t'as pas trop le choix. Nous, par exemple, on est assez proche de nos voisins, finalement. alors que c'était pas forcément quelque chose, moi, qui ai pas mal bougé, c'était pas forcément quelque chose, le voisinage qui était très important. Et à Amber, en fait, ça l'est parce que c'est des gens que tu croises tous les jours. On habite dans une rue dans laquelle on passe à pied assez régulièrement et on se croise.
Et alors, tu évoquais aussi des événements auxquels certaines aiment aller. C'est quoi cette vie culturelle existante à Amber ?
Il y a différents types, on va dire. Il y a les événements associatifs. Donc moi, c'est dans lesquels je me retrouve le plus. Donc qui sont portés par des associations. Donc il y a des associations de comptes. Il y a eu il n'y a pas très longtemps une Fashion Week qui a été organisée, qui a été incroyable. Il y a un carnaval. Alors là, je fais pour le côté associatif. La fête des voisins qu'on organise nous dans notre rue, il y a un cabaret, il y a des cantines, il y a pas beaucoup de concerts parce qu'il n'y a pas de lieu dédié à ça. Après, il y a la vie institutionnelle avec des événements autour de thématiques ou alors des événements dans les salles municipales. Des événements qui sont moitié institutionnels, moitié associatifs, qui sont portés par le centre culturel Le Bief, qui fait un super travail de programmation et où il y a beaucoup de résidents, beaucoup de choses qui se font autour de l'estampe. Et puis il y a aussi des événements, auxquels je participe pas, qui seraient par exemple l'enduro, donc la rando Auvergne, qui est une course d'enduro, donc de moto dans la montagne, de motocross quoi, qui ramène beaucoup de monde. Il y a des rallyes, il y a les Fourmofolies, les Fourmofolies c'est petit festival dans les rues. Alors moi je trouve vraiment pas ça ouf quoi, mais c'est autour de la fourme. Il y a le festival d'Amber, le World Festival d'Amber, qui est un festival avec une grosse programmation et qui attire aussi pas mal de monde. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a d'un côté un peu les choses plus locales autour des sports mécaniques et de l'autre des choses autour de la nature. Voilà, il y a des conférences parfois, une association qui organise des conférences. Il y a beaucoup de sujets qui se croisent aussi. Et il y a des associations qui essayent de mêler différentes personnes dans différents événements. Donc, par exemple, inviter l'association des jeunes qui tunent des voitures pour parler de contrôle technique, comment contrôler sa voiture. Et parce que via un contrôle réalisé par soi-même, la voiture peut aussi polluer moins.
Super. Et alors, à cette offre culturelle s'ajoute Radio Super.
Radio Super.
Oui. Radio Super. Et elle est arrivée quand, Radio Super ? Elle existe depuis combien de temps ? Qui l'a inventée ?
Elle existe depuis 2022 et on l'a créée à trois avec Agathe et Nicolas qui sont en pleine formation en ce moment même à Amber. En fait, avec Agathe, nous, on s'était rencontrés et on est passé par Radio Campus à Clermont. Et quand on est arrivé à Amber, moi, je faisais trois choses. Je faisais de la radio, du vélo et de la photo. Donc il y avait un labo photo, il y avait un atelier d'autoréparation de vélo, il n'y avait pas de radio. Et du coup, j'en ai parlé à Agathe qui m'a dit « Ouais, super idée », j'étais « Ah bon ?» Et après à Nicolas qui m'a dit « Ouais, je suis chaud, je vous aide. » Et comme c'est lui qui s'occupe de la partie technique, étant le technicien de Radio Campus Clermont, tout filé, tout fait sur les parties logicielles d'automation, matériel à acheter, comment s'équiper, nanani, nanana.
Est-ce qu'on peut dire que Radio Super, finalement, c'est une émanation de Campus Clermont ?
C'est totalement une émanation de Campus Clermont. Je pense qu'ils seraient très contents d'entendre ça.
Ah, je ne sais pas, hein, mais voilà, parce que apparemment vous êtes tous passés ou encore à Radio Campus Clermont. Ouais. Donc là, on voit que les radios du réseau Campus, elles essaiment en fait, sur les territoires, enfin un peu plus loin, en fait, jusqu'où ouais. Leurs ondes n'émettent pas. Il y a d'autres petites radios qui se créent, c'est chouette.
Bah, typiquement, les ondes de Radio Campus n'arrivent pas dans le livret de Forez. Il y a très peu d'ondes dans le livret de Forez qui arrivent. Il y a une offre radiophonique très très faible. Ça nous semblait nécessaire. Alors au début, c'était un coup d'essai et puis finalement, ça a bien accroché. Et nous voilà à faire des projets autour de la FM maintenant.
Il y a quoi comme chose qui se capte dans votre zone de chalandise, disons?
Il y a France Inter. On est content parce que sinon on n'aurait pas le jeu des 1000 euros. Il y a même pas RCF. Je sais pas si tu te rends compte, RCF, on capte partout, mais pas dans le livre de Forez. Il y a énergie. Si vous avez de la chance ou, je sais pas, une voiture super puissante, peut-être vous arriverez à capter France Culture. Et ensuite, il y a deux radios locales, commerciales, qui sont Logos FM et RVA, Radio Volcan d'Auvergne. Qui, RVA, a été créé à Arlan, un village à côté. C'était Radio Vacances Arlan, puis Radio Val d'Ambert, puis ça a été revendu pour être Radio Volcan d'Auvergne. Donc c'est à Clermont-Ferrand maintenant, mais on capte quand même. C'est pas mon type de radio où il y a les mêmes 5 chansons qui passent toute la journée en boucle.
Donc en tout cas, il y avait un déficit de radio associative ou de radio autre, telles que les radios du réseau Campus. Voilà. Mais voilà, donc en tout cas, l'idée, c'était de recréer finalement ce que vous aviez vu peut-être et vécu aussi à Radio Campus.
Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, on n'a pas réinventé l'eau chaude. Hein. Nous, on est passé par Radio Campus, on a posé ce format-là avec une grille de programmation. L'idée de pouvoir proposer plein de choses. Mais moi, avant d'être à Radio Campus, j'étais passé par à Radio Campus Clermont. J'étais passé par Radio Campus Angers. J'avais une émission à Radio Campus Angers en 2015. Et par une radio aussi en Irlande. Donc il y avait cette envie de recréer un peu ce même format, de choses très ouvertes autour de la programmation, que ce soit la programmation musicale, les émissions, que ce soit assez accessible pour tout le monde. Donc on essaye de transmettre et de d'essaimer aussi au sein de Radio Super pour qu'il y ait plein d'émissions.
Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est tombé dans la marmite de la radio, on n'en sort jamais?
Peut-être. Peut-être qu'on n'en sort pas. On s'est fait pirater Radio Super la semaine dernière, sûrement par ma faute. Il y a eu pendant une journée ou deux du rock russe sur Radio Super. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'amusait à refaire des blocs intelligents, à refaire la programmation. Et heureusement que Nico était là pour tout fermer, tout bloquer. Merci Nicolas.
Alors il y a quoi sur les... Enfin, j'allais dire sur les ondes, mais non, parce que vous êtes une web radio.
On est une web radio.
Donc pour le moment, vous êtes une web radio. Donc il y a quoi sur votre web radio? Qu'est-ce qu'on peut entendre? Est-ce qu'il y a une grille de programme? Il y a quoi dedans?
Il y a une grille de programme. L'idée de faire cette grille de programme, c'était pas d'avoir des émissions 24 heures sur 24. C'était de faire un peu comme à la radio, quoi. D'avoir de la musique, de continuer à s'entraîner à mettre de la musique. Et aussi d'avoir quelques émissions qui soient des émissions, donc on l'appelle la collective, la colle des super. Cette émission, elle permet à tout le monde, n'importe qui, de venir et de dire des choses à la radio. Donc de parler de ses projets, de se présenter, de ramener une chronique, de passer de la musique. C'est le jeudi à 18h. Alors avant, c'était tous les jeudis. On n'avait pas de studio fixe au début, donc on sortait tout le studio. On n'avait que un plateau mobile avec que du gros matériel qu'on s'amusait à sortir toutes les semaines. Alors je sais pas, on devait avoir beaucoup d'énergie à ce moment-là. Il faut imaginer, c'est quand même pas mal de câbles à brancher. On sortait toutes les semaines et on se mettait dans une grande salle, la grande salle des locaux côtiers, qui est un tiers-lieu, qui a une grande salle qui permet de faire des choses comme ça.
Un jeudi sur deux.
Donc il y a cette collective, il y a la matinale énervée. Il y a une matinale énervée. Et il y a une émission de rap, il y a une émission musicale. On commence à rediffuser des émissions de Radio Dio qui est à Saint-Étienne. Et puis voilà ce qu'on peut trouver dans la grille, on va dire direct live régulier. J'en ai peut-être oublié d'ailleurs, mais il y avait des envies de faire de la lecture à voix haute de livres, par exemple, parce qu'on a des personnes qui font partie d'un projet qui s'appelle les donneurs de voix, qui sont des personnes qui lisent des livres. Qui lisent des livres pour que des personnes non-voyantes puissent les écouter, parce que tous les livres ne sont pas en audio description, on pourrait dire. Et donc d'ailleurs, si vous écoutez ce truc-là, si ça vous intéresse, allez-y venez enregistrer dans des studios de radio, parce que normalement, ce sont les personnes qui enregistrent en général, c'est des personnes qui enregistrent sur leurs ordinateurs ou avec leur téléphone, et la qualité est pas incroyable Et donc les personnes qui portent le projet, quand on leur, les premiers enregistrements ont été envoyés, on trouvait ça vraiment, vraiment très bien enregistré. Et ah, mais c'est trop bien cette qualité. Bah, quand t'as un studio, ça marche bien, oui.
Je reviens encore sur cette collective ou alors cette matinale énervée. Ça veut dire que ça, c'est un endroit où vous pouvez accueillir des nouveaux bénévoles.
Ouais, c'était ça l'idée. Un peu comme le même format qu'à Clermont-Ferrand, une émission qui s'appelle Les Attablés, où quand tu es bénévole, tu as envie de faire de la radio, mais tu ne sais pas encore trop ce que tu vas faire, tu n'as pas d'idée trop précise et tu veux te former un peu. Eh ben, y a ces temps-là qui sont faits pour ça, donc tu viens. On te met derrière la machine ou derrière un micro et puis on te dit « Allez, vas-y, c'est parti !» Et voilà. Et en général, nous, on s'occupe, enfin, moi, d'autres, on s'occupe de la cordo, d'essayer de trouver des invités, d'essayer d'avoir des sujets. Voilà.
C'est qui les nouvelles personnes qui ont rejoint votre trio d'enfer ?
Eh bien, plutôt pas des jeunes. Alors, désolé pour elle et eux. Il y a, je dirais, peut-être en tout, on est une dizaine de personnes, et dans les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, c'est plus des 40-50-naires. Voilà, des personnes qui ont des approches très différentes de la radio, c'est assez marrant. Donc, des personnes qui ont fait soit de la radio dans les années 80, au moment des radios libres, soit en fait, avant qu'on arrive à Ambert, au moment où on est arrivé à Ambert, il y avait eu une motivation radio, ils faisaient des week-ends radio pirates. Dans la montagne où pendant un week-end tout le monde se réunissait et il y avait un plateau radio et tout le monde faisait de la radio et c'était retransmis sur la FM. Et alors quand on est arrivé nous et qu'on a lancé le projet de la radio, cette énergie là était un peu en essoufflement parce que les gens avaient quand même des projets perso, souvent autour de l'habitat, des projets de travail, la vie quoi.
Et ces personnes là donc elles viennent chroniquer dans ces temps d'antenne. Mais voilà, est-ce qu'elles n'ont pas d'émission autonome pour le moment en tout cas ?
Si, maintenant il commence à y en avoir. Il commence à y avoir y a deux émissions autonomes, des émissions qui sont faites aussi ailleurs. Mais souvent, le truc qui pose le plus de problèmes, c'est la technique. Si j'ai oublié une autre émission qui s'appelle Dédicace du siècle, qui est une émission en partenariat avec Radio Campus Clermont, qui est diffusée sur leurs ondes. Et qui est à destination, ce sont des dédicaces qui sont à destination des usagers, on pourrait dire, du pénitencier de Rion, enfin de la prison de Rion. On ne dit plus pénitencier, non. C'est fini.
Je ne sais pas. Comme ça, je pourrais caser un extrait de Les Portes du pénitencier. Voilà, tout ça.
Non, mais, non.
Merci bien.
Non, non.
Et c'est quoi vos couleurs musicales ? Qu'est-ce qu'on entend dans vos playlists ?
Alors. C'est la programmation pour le moment, c'est plus c'était moi, donc j'ai mis beaucoup de choses que j'aime bien. À Radio Campus Clermont, moi je passais de la musique, on pourrait dire world, donc un peu tout ce qui n'est pas en français ou en anglais, tout ce qui est un peu une couleur locale hein, de quelque part. Et il y a beaucoup de ça, de disco, de la funk, de l'électro, jazz, et puis il y a d'autres programmateurs maintenant qui mettent plus du rock ou de la musique expérimentale.
Et alors sur l'idée qu'il n'y a pas de salle, disons, dédiée pour accueillir des concerts sur votre ville, votre village, est-ce que l'idée par exemple de diffuser des concerts sur Radio Super, ça peut être intéressant ?
C'est carrément intéressant, il y a plein de gens qui ont envie de faire ça. On ne l'a pas encore fait, mais parce que aussi je pense que c'est différent de sonoriser un concert et d'envoyer dans une machine ou d'enregistrer. Donc on n'a pas encore fait ça, mais on aimerait bien le faire. Ouais. Ça va sûrement arriver parce qu'on va avoir une nouvelle grille de programmation tout bientôt. Je peux en parler parce que... Allez, je vais en parler. Allez, c'est parti, j'en parle. Il nous reste 10 minutes. Eh bien, on est sur un projet de radio. En fait, on s'est rendu compte quand même qu'à Ambert, on n'allait pas être suffisamment nombreux pour tenir la baraque pendant très longtemps. Et être en web radio, ce n'est pas non plus nous la pratique qu'on a de la radio. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'à plusieurs, on sera plus fort. Et donc, on a rencontré d'abord une radio associative accompagnée par Nico de Radio Campus aussi à Brioude qui s'appelle Radio Larsen. L'acronyme de la radio sans nom. Et on a commencé à prospecter aussi à d'autres endroits. Et finalement, il y a des gens qui sont intéressés dans d'autres villes comme Thiers et Brioude, Donc c'est des villes qui se ressemblent un peu, qui sont un peu des villes dépeuplées, un peu vieillissantes, un peu des villes avec des centres-bourgs un peu cassés, quoi, un peu en ruine, et qui sont en territoire de moyenne montagne. Et il y a des envies de faire de la radio un peu dans tous ces endroits-là. Donc l'idée, ce serait qu'on se partage chacun depuis notre endroit une grille de programmation pour aller d'abord chercher une demande de FM temporaire auprès de l'ARCOM, qu'on a présentée au responsable local de l'ARCOM, qui a trouvé le projet intéressant et séduisant.
Est-ce que tu penses que ces initiatives de faire vivre de la radio dans des territoires de montagne ou qui se dépeuplent, ça a un aspect militant ?
Ben, ça dépend de qui prend les commandes de la radio, quoi, qui participe à la radio. Ça peut être un truc, on aurait pu lancer une radio de musette, de trad et de musette. Ça aurait pas été très militant, encore que le trad a beaucoup de choses à dire au niveau du militantisme. Mais ça dépend des personnes qui prennent ce truc-là en main. Mais en tout cas, c'est forcément c'est un outil de communication, c'est un média. Donc ça amène forcément un peu de militantisme, et puis c'est un truc un peu à l'ancienne, et c'est aussi un truc assez accessible. Donc beaucoup de personnes peuvent s'en saisir.
Est-ce qu'il y a des projets prévus avec les écoles, collèges, lycées ?
Oui, on fait des ateliers déjà avec des collèges et des lycées, donc certains qui ont des web radios, certains pas. Donc on en a plein, ils nous mobilisent beaucoup. On ne peut pas répondre à tout, malheureusement. Mais c'est vraiment un super outil, la radio, à ramener, parce qu'en fait, c'est juste un média, et c'est juste un moyen d'expression aussi, et un moyen de aussi commencer à parler d'information, parler de médias, de qu'est-ce que c'est l'information, comment c'est facile de faire de la mauvaise information, ou de la fausse information. Donc on a aussi fabriqué, avec la mission locale du coin, on a fabriqué par exemple, toute une émission autour d'une fake news où on a fait des fausses interviews, et puis finalement ça faisait un propos qui avait l'air vrai, mais en fait c'était un peu n'importe quoi.
C'était fake. Et donc, comment est-ce que vous vivez ? Parce que là, pour le moment, je crois que vous êtes bénévole de cette radio, donc est-ce que l'objectif c'est aussi que vous puissiez vous salarier sur ce projet-là ?
On est tous et toutes bénévoles. Ouais, l'idée c'est peut-être d'abord de commencer par faire des petites prestas. À des personnes qui souhaiteraient pour pouvoir lancer des projets, parce que pour beaucoup de personnes il y a quand même une question de moyens et que si on n'a pas les moyens pour vivre, c'est difficile de se lancer dans des projets bénévoles.
ارباب خودم سر تو بالا کن
توی هر دو چشم نهی ایشالله
ارباب خودم به من نگاه کن ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم چرا نمیخندی ارباب خودم گلی به جماله از کجا بگم بس به کماله حاجی فیروزم
بله
ساری یه روزم
بله
حاجی فیروزم
بله
مثل نیم سوزم
بله
بشکن بشکنه
بشکن
من نمیشکنم
بشکن
من نمیتونم
میتونی
چجوری بشکنم
تق تق
چطوری بشکنم
تق تق
اینجا بشکنم یار گله داره اینجا بشکنم یار گله داره اونجا بشکنم یار گله داره این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره حاجی فیروزم
بله
سالی یه روزم
بله
سالی که گذشت سال بد بود سالی که گذشت سال بد بود سالی بد و بد زبد بتر بود ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد مردا رو اخته کرد مردا رو اخته کرد زنا رو شلخته کرد دکونا رو تخته کردی همه رو خسته کردی ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی
ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک
یا حق یا هو هر کی به کاری مشغول پولی بریز تو چشکول یا حق Yahoo ! همه یه روزتان پیروز.
Et voilà, c'était une interview de Gaston Bellamy, donc qui est bénévole à Radio Super. Voilà, donc ça continue ma série de portraits de personnes qui sont actives dans les radios associatives partout en France. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller écouter sur notre site. Eh bien, vous aurez Timbre FM et Radio Quetch. Donc, mon invité, je l'espère, devrait arriver. Attention, je le vois qui se connecte dans la visio. Et auditeurs, nous allons vivre un grand moment de radio puisque nous allons voir ensemble si la visio fonctionne dans notre studio Radio Campus. Alors, attention. Bonjour Yves Tillet. Votre micro est ouvert, mais je ne vous entends pas. Sur Radio Campus Tour, c'est pas de chance. Il y a pour le moment un problème technique. Alors ça arrive hein, dans les radios associatives. Je vais tenter d'autres choses. Allô, allô, allô. Alors je vais mettre une pause musicale, chers auditeurs. Oui, parce que comme ça, vous voyez aussi les rouages de Radio Campus Tour. Et donc, par le truchement d'une pause musicale, je vais aller voir sous la table de mixage si un câble se serait malencontreusement débranché. Et j'espère que vous pourrez après entendre mon invité qui est Yves Tillet. A tout de suite.
Moi ça sort.
Suspense insoutenable, est-ce qu'on va pouvoir entendre notre invité ? Bonjour Yves Tillet.
Bonjour.
Eh oui, ça fonctionne, donc j'en profite pour remercier mon collègue. Voilà, chers auditeurs, chers invités, toutes nos excuses, mais voilà, évidemment on ne rivalise pas avec Radio France, mais c'est ce qui fait sans doute le charme des radios associatives. Alors Yves Tillet, vous êtes membre de la SDN, donc je dis tout de suite que c'est la Société des Neurosciences, hein, si d'aventure nos auditeurs trouvaient que ça prête à confusion. Vous êtes responsable de la Semaine du Cerveau à Tours et vous êtes également directeur de recherche à INRAE. Alors cette Semaine du Cerveau, elle se tient du 10 au 18 mars 2025. C'est un événement national, donc on l'aura compris, avec une déclinaison locale. Peut-être voulez-vous commencer par nous rappeler en quoi ça consiste, cette Semaine du Cerveau.
Oui, d'abord merci de m'inviter à présenter le programme de cette semaine. Alors je dirais même que c'est une semaine internationale, puisque au départ c'est parti de nos voisins états-uniens. Et l'idée c'était de promouvoir les recherches sur le cerveau et de informer le plus grand nombre des progrès dans ce domaine. Et donc, ça s'est décliné dans plein de pays, et notamment en France. Donc, en France, c'est le même but, hein, c'est la Société des neurosciences qui l'organise et qui promeut les recherches en neurosciences et fait connaître un peu la discipline et la recherche.
Et alors, c'est quoi cette Société des neurosciences ? C'est une entité liée à une université ? C'est une entité gouvernementale ? Qu'est-ce que c'est ?
Ni l'un ni l'autre, c'est une association de loi 1901, qui en fait regroupe l'ensemble des chercheurs, ou presque l'ensemble des chercheurs de neurosciences en France, ce qui correspond grosso modo à 2500 personnes, dont pratiquement 500 étudiants et post-docs. Et donc, ce sont des personnes qui font de la recherche sur le cerveau et des finalités de connaissance, ou tout simple, enfin, ou aussi des finalités d'appliquer, applicatives, pardon, avec la recherche clinique et différentes choses autour du cerveau.
Et alors, j'imagine qu'il y a des, disons, des cervologues de plusieurs espèces. Est-ce qu'il y a plusieurs disciplines ? Parce qu'on pourrait penser à, voilà, tout de suite, les sciences exactes, mais peut-être voudriez-vous nous en dire plus ?
En fait, le spectre est très, très large. Hein. Les neurosciences, pour la société des neurosciences, vont depuis la recherche très fondamentale au niveau cellulaire jusqu'à la recherche très appliquée sur les maladies du cerveau, en passant par l'utilisation de l'informatique, des mathématiques pour modéliser les projets de recherche, pour la recherche en comportement animal, la recherche en neuropsycho, la recherche... clinique, je l'ai dit, enfin voilà, tout ce qui tourne autour des neurosciences, la recherche computationnelle, beaucoup de domaines très variés et très vastes hein, sont sous ce thème.
Et alors, évidemment, je ne résiste pas à vous demander, quid des sciences humaines ?
Les sciences humaines, ils sont rattachés par tout ce qui concerne justement les comportements. Par certains côtés, la sociologie entre dans ce champ-là. En fait, le lien avec le cerveau peut être fait à différents niveaux pour mettre en relation enfin, les neurosciences avec différentes disciplines.
Et donc, est-ce que vous êtes un cervologue chez INRAE ?
Alors, j'étais un cervologue INRAE parce que je suis à la retraite depuis quelques mois. Donc, à l'INRAE, j'ai travaillé sur les interactions entre les hormones, notamment les hormones de la reproduction et le cerveau. Et on se rend compte que notre cerveau est sensible à tout ce qui l'entoure et notamment à tout ce qui vient de notre organisme. Et les hormones sont des régulateurs importants de notre cerveau. Et donc, je me suis intéressé à ça pour une fonction très précise qui est la reproduction.
La reproduction, donc peut-être là, il y a pour nos auditeurs un lien à faire ou pas, vous nous le direz, sur tout ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens.
Oui, puisque enfin, ce qui va perturber la reproduction peut interagir à différents niveaux de l'axe, hein, qui va du cerveau jusqu'aux gonades. Et les perturbateurs endocriniens peuvent intervenir au niveau cérébral comme un tas de polluants, hélas, oui.
Et dans le mail que vous adressez à la presse, donc merci de considérer que Radio Campus en fait partie, il y a cette phrase « Comprendre le fonctionnement du cerveau, un des derniers grands défis actuels de la biologie ». Alors, pourquoi ce défi persiste ? Et alors, une fois qu'on aura compris ce fonctionnement, c'est après le déluge, que fera-t-on ?
Je ne sais pas, après le déluge. En tout cas, on part d'un organe qui est quand même assez secret pour une grande partie de son fonctionnement. C'est un organe qui n'est pas encore très, très bien connu. Il y a beaucoup de choses à lever, il y a beaucoup d'incertitudes et de mystères à lever. C'est pour ça que c'est un des grands défis de la biologie. Essentiellement lié au fait que finalement, le cerveau, il est bien protégé dans la boîte crânienne et pendant très longtemps a échappé à l'auscultation, a échappé aux examens que l'on pouvait faire en routine, qui maintenant sont des obstacles levés avec l'imagerie, avec un tas d'outils d'investigation. Mais tout ça fait que finalement, les recherches n'ont pas avancé aussi vite que pour d'autres organes, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses à découvrir hein, sur la façon dont le cerveau fonctionne et puis... surtout ce qui peut éventuellement déranger son bon fonctionnement et conduire vers des pathologies qui sont graves pour beaucoup d'entre elles.
Alors que nos auditeurs se rassurent, hein, cette semaine du cerveau, elle est bien adressée au grand public et pas uniquement aux spécialistes. Alors à Tours, il y aura deux conférences, une rencontre littéraire et une pièce de théâtre. Voulez-vous nous en dire plus ?
Oui, d'abord, je vous confirme le fait que c'est bien destiné au grand public, ce n'est pas du tout pour les spécialistes. Les spécialistes ont des réunions pour ça. Donc l'idée, hein, je vous le disais au début, c'est de promouvoir les neurosciences et d'informer le public des progrès de la recherche. Et donc, c'est ce que nous allons faire à Tours avec les événements que vous avez cités. Hein, si on les reprend dans l'ordre, hein, demain soir, à Salle Saint-Gore au niveau du lycée Descartes, hein, il y a une pièce qui s'appelle De A à Zèbre, qui est donnée qui est une pièce de la compagnie Pipo, écrite et réalisée par Ida Tesla, et qui a pour but d'aborder un petit peu la neurodiversité. Ce que l'on met sous ce terme, c'est grosso modo la diversité de modes de fonctionnement de nos cerveaux, qui, je le rappelle, notre cerveau est unique, hein, il nous fait tel que nous sommes, Et on se rend compte qu'il y a des variations très importantes dans le fonctionnement de notre cerveau qui se traduisent par notre façon de voir notre environnement, d'y être sensible. Hein. Il y en a qui, personnes qui sont plus émotives que d'autres, d'autres qui sont plus curieuses, etc. Donc, ça, dans la majorité des cas, tout se passe bien, mais quelquefois, certaines façons de fonctionner vont aboutir à des handicaps, à des blocages, hein, des gens trop timides, des gens à la nuit, à l'inverse, trop curieux ou sans trop d'inhibition, vont avoir des comportements un peu inadaptés. Et donc, c'est cette diversité de fonctionnement que nous allons aborder au cours de cette pièce de théâtre qui sera poursuivie par une discussion avec la salle, avec en présence de deux chercheurs. D'un côté, Cindy Gilles, qui est psychologue au Centre de référence pour les troubles du langage et des apprentissages du CHU, et puis qui est dans une équipe de recherche aussi à l'université, l'équipe PAVEA, Psychologie des âges de la vie. Et puis Frédéric Lemounier, qui est un chercheur INSERM en génétique dans l'unité INSERM High Brain. Et donc, l'un et l'autre vont pouvoir apporter, l'un une connaissance plus fondamentale de ses recherches, et puis l'autre une connaissance plus appliquée de la mise en œuvre de ses recherches, donc pour essayer de répondre aux questions du public sur ce sujet.
Alors, puisque je vois, pardon, troubles du langage, est-ce à dire que la pièce traite aussi des troubles 10 ?
Ça sera certainement abordé, mais ce n'est pas le centre de la pièce. Hein. Je ne veux pas dévoiler les secrets de la pièce. Disons que la pièce met en scène des adolescents dans un lycée. Et c'est les interactions, les rapports entre ces deux adolescents pardon, qui est le sujet de la pièce. Peut-être au niveau de la discussion, c'est quelque chose qui peut venir, mais ce n'est pas au centre de la pièce comme pouvait l'être 10 sur 10, par exemple, une autre pièce que nous avions présentée l'an passé.
Voilà, donc venez voir cette pièce, c'est gratuit, c'est sur inscription, c'est pour petits
oui,
et grands.
C'est sur inscription comme toutes les manifestations de la semaine, et c'est important parce que nous sommes dans des salles dont les capacités sont limitées et qu'on ne peut pas faire entrer plus que la capacité d'accueil de la salle. Donc, il faut absolument s'inscrire pour venir.
Et des conférences ?
Les conférences, oui, il y en a deux vendredi soir qui sont en fait des conférences qui sont reliées à la Fondation Thérèse et René Plagnol qui finance des projets de recherche sur les maladies du cerveau. Et donc, ces conférences vont être données par les lauréats de la Fondation. La Fondation Plagnol récompense tous les ans des jeunes chercheurs pour la qualité de leurs travaux. Et cette année, les deux chercheurs qui vont être récompensés vont parler pour l'un d'une maladie qui concerne les petits vaisseaux cérébraux. Alors, ce sont des petits vaisseaux qui ont quelquefois rencontrent quelquefois des petits soucis. Et cette maladie est relativement discrète. On ne se rend pas forcément compte du commencement de cette maladie, mais on sait que ça peut aboutir sur des problèmes vasculaires plus importants, et c'est ce dont il sera question vendredi. Donc, ce sera donné par le docteur Quentin Legrand, qui nous vient d'une unité de recherche INSERM de Bordeaux. Et la seconde conférence sera donnée par Dominique Gouilly, qui est docteur également en sciences et en médecine, et qui est, lui, au centre d'imagerie de l'unité INSERM à Toulouse. Et lui nous parlera de l'immunité cérébrale au stade débutant de la maladie d'Alzheimer. En fait, pour beaucoup de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, il y a une composante inflammatoire, c'est-à-dire qu'il y a des marqueurs de l'inflammation qui vont être observés. Et parmi les pistes qui sont avancées dans le domaine de la recherche, justement, le fait de savoir, c'est si en combattant l'inflammation, on pouvait réduire l'impact de la pathologie, voire l'enrayer. Et donc, c'est de cet aspect qu'il viendra nous parler vendredi.
Et alors, une inflammation qui serait due à quoi ?
Alors justement, ce que l'on connaît dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on a une dégénérescence neuronale, comme dans d'autres maladies neurodégénératives. Et dans ce que l'on observe dans ces maladies, c'est justement des marqueurs de l'inflammation, l'inflammation cérébrale, dont l'origine n'est pas évidente, n'est pas claire. Est-ce que c'est l'inflammation qui va provoquer la maladie ou la maladie qui va provoquer l'inflammation ? Tout ça reste encore très débattu.
Eh bien, nous irons en débattre avec les chercheurs avec plaisir. Donc, on rappelle que c'est des conférences qui seront cette fois-ci à l'hôtel de ville de Tours.
Exactement, dans la salle des mariages.
Et sur inscription aussi ?
Sur inscription aussi, oui, absolument, c'est important.
Et alors, cerise sur le gâteau, une rencontre à la librairie La Boîte à Livres.
Exactement, voilà. Le 18 mars, donc mardi prochain, enfin mardi de la semaine prochaine, j'ai le plaisir d'inviter Sébastien Lemerle, qui nous vient de l'université Paris-Nanterre, et qui, lui, est plus du côté de la sociologie, justement. Il travaille sur ce domaine, et il viendra nous parler du cerveau reptilien et nous expliquer en quoi ce cerveau reptilien est vraiment maintenant ce qu'on appelle un neuromythe, c'est-à-dire une chose qui a été vérifiée, enfin, une hypothèse qui a été mise dans les années 50 et puis qui s'est avérée fausse. Mais malgré tout, les gens continuent de parler de ce cerveau reptilien et c'est quelque chose que l'on ne voit plus du tout dans le domaine des neurosciences. L'hypothèse en neurosciences a été abandonnée dès les années 60. Mais c'est une idée qui continue de faire son chemin dans le domaine de la formation, dans un certain nombre de formations à l'épanouissement personnel et à la formation en gestion des personnes. Et il viendra nous parler justement de cette dérive. Alors, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est une hypothèse née en neurosciences, qui a été démontée en neurosciences, mais qui continue son petit bonhomme de chemin, j'allais dire, dans d'autres disciplines. Et donc, il faudra nous parler de ce phénomène qui, par certains côtés, peut induire des connaissances fausses. Hein. Il ne faut pas croire que ce qui avait été déterminé sur le cerveau reptilien, on entendait par là, en fait, tout ce qui concerne les réactions un peu primitives, primaires, que nous pouvons manifester parfois. Et donc, un chercheur américain, David McLean, avait émis l'hypothèse qu'il y avait dans notre cerveau plusieurs composantes, dont cette composante-là, qui était responsable de nos accès de colère, de la violence, etc. Et donc, la suite a prouvé que ce n'était pas aussi simple que ça, et que l'hypothèse a été abandonnée dans le domaine des neurosciences. Donc, il viendra nous présenter ça mardi 18 mars à la boîte à livres.
Voilà, donc, que nos auditeurs se rassurent, hein, s'ils croient au cerveau reptilien, ils peuvent tout à fait venir écouter cette conférence tout de même pour en savoir plus. Et alors, ce cerveau reptilien, est-ce que ça peut aussi induire, pour les personnes qui continuent à travailler ou à proposer cette théorie, induire des biais racistes ou sexistes ?
Je ne sais pas si ça peut aller jusque-là. En tout cas, ça a permis d'expliquer une certaine violence hein, des individus, en sens où c'était quelque chose qui pouvait être la manifestation d'une activité cérébrale un peu hors contrôle. Le cerveau reptilien était considéré comme la base des fonctions cérébrales, qu'on le rencontrait effectivement chez les vertébrés inférieurs, comme les reptiles, les poissons, ce qui s'est avéré faux. Hein. Les caractéristiques qu'on a mis dans le cerveau reptilien ne sont pas forcément celles qu'on retrouve actuellement chez ces animaux-là. Et donc, ce cerveau reptilien était censé être comment dire, complété par une série de structures cérébrales que l'on retrouve chez les animaux plus évolués. Alors, McNeill parlait, il a pris comme exemple le cheval, hein, en disant que c'est un animal qui avait un certain contrôle sur son cerveau. Et puis, le nec plus ultra était le contrôle que l'on pouvait observer chez l'homme, chez nous, et qui était censé réfréner justement les pulsions qui pouvaient sortir de ce cerveau enfoui, de ce cerveau reptilien, qui était censé justement maîtriser un peu tout cela, et qui, quelquefois, lorsque l'absence de maîtrise était importante, il y avait des manifestations de violence qui pouvaient conduire effectivement à du racisme, à du sexisme, dans ce que l'on retrouve aujourd'hui dans l'actualité.
Voilà, c'est un bon exemple aussi de voir comment une théorie scientifique qui pourtant a été prouvée comme étant fausse peut servir à justifier tout et n'importe quoi, voire à être bien commode pour vendre, en fait, pour faire du bénéfice, puisque là vous évoquiez tout à l'heure l'idée des formations en développement personnel et autres, où on se base sur une théorie fausse dans le but de vendre quelque chose.
C'est ça, et c'est justement, alors j'invite tous nos auditeurs à lire le cerveau reptilien qu'a écrit Sébastien Lemerle. Il aborde justement ces choses-là dans le détail, et c'est très 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 intéressant, et c'est ce qu'il viendra nous expliquer. Alors après, par certains côtés, peut-être que cette notion peut aider aux formations qui sont réalisées. Alors, on va dire à ce niveau-là qu'il y a un petit peu de tromperie sur la marchandise par rapport aux termes qui sont utilisés. je pense qu'il faut faire la différence entre ce que l'on peut en faire maintenant et puis ce que ça représente réellement, quoi.
Merci à vous. Et alors, puisque l'Université de Tours a rejoint le mouvement Stand Up for Science en tant qu'ex-directeur de recherche à INRAE, puisque vous êtes en retraite, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement qui devient, disons, international ?
Je pense que c'est un mouvement important pour montrer l'existence des sciences et tous les rapports des sciences et de la recherche, et tous les apports que cela amène à la société et à tout un chacun. Je dirais, pour moi, c'est vraiment le domaine sur lequel tout notre avenir est basé et qu'il faut soutenir absolument et ne plus entendre ce qu'on a pu entendre récemment dans la bouche de certains grands dirigeants, suivant mon regard de l'autre côté de l'Atlantique, hein, où la science est piétinée, bafouée, et ça, c'est pour moi la pire des choses qui puisse arriver. Hein. Priver un pays de recherche et de science, c'est mettre une grosse hypothèque sur son avenir.
Est-ce que ça prend une autre dimension, un événement comme la semaine du cerveau, à l'aune de cette actualité internationale ?
Oui, disons que à l'échelle de cette modeste manifestation qui rejoint un petit peu la fête de la science qui a lieu en octobre, je pense que l'intérêt, c'est de montrer que cette recherche existe, de montrer combien elle est importante, et puis aussi essayer de rétablir quelque chose que l'on voit mettre un petit peu à mal actuellement, c'est la confiance de la population dans la recherche. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été réalisées à ce niveau-là qui ont montré qu'il y a de plus en plus de défiance par rapport aux résultats de la recherche. Et là, je pense que c'est important de remettre un petit peu les pendules à l'heure et de montrer que cette recherche est absolument indispensable dans tous les domaines, hein, le domaine de la santé, de la formation, de l'enseignement. C'est quelque chose qui absolument, qu'il ne faut pas négliger et surtout pas la traiter comme elle a été, quoi.
Donc les sciences avec et pour la société, ce n'est pas juste pour faire joli.
Non, c'est vraiment le point central de notre société. Hein, si on prend quelques exemples, hein, ce qui a été mis en avant par la nouvelle administration américaine, et je ne vais faire que répéter ce que d'autres ont dit, si on arrête de faire de la recherche sur certains domaines parce qu'on estime que ce n'est pas important, et j'entends par exemple les recherches sur le genre, eh bien, demain, on va arrêter de faire des comparaisons hommes-femmes pour toutes les études qui vont être réalisées dans le domaine de la biologie, et on va se rendre compte qu'on va passer à côté d'un tas d'informations importantes, et on commence déjà à se rendre compte que les tests, par exemple, des médicaments qui sont réalisés essentiellement sur des hommes de la tranche d'âge 25-40 ans, eh bien, ces résultats ne valent pas forcément pour des personnes plus jeunes, ça on commence à s'en rendre compte, mais aussi plus âgés, et chez les femmes. Donc si on bannit les études comparatives de ce domaine, on va perdre un tas d'informations et mettre en danger un certain nombre d'aspects de santé. Hein. Si on ne veut plus travailler sur le genre, on ne va plus travailler sur les hormones qui vont être différentes chez les hommes, chez les femmes, etc. Ça peut devenir très vite catastrophique. Donc non, il faut garder une recherche pleine et complète, avec beaucoup d'imagination, une recherche vraiment qui nous fera la société de demain.
Eh bien, qu'on vous entende, en tout cas sur nos ondes, Yves Tillet. Donc, je rappelle que vous êtes membre de la Société de Neurosciences, vous êtes responsable de l'édition Tour Angèle de la Semaine du Cerveau, et vous étiez directeur de recherche à INRAE. Où est-ce qu'on peut retrouver tout le programme dont vous venez de nous parler ?
Alors, le programme, on peut le retrouver sur le site de la Semaine du Cerveau, alors semaine-du-cerveau.fr, et là vous avez tout le programme de ce qui se passe en France. On peut cliquer, faire des recherches par ville ou par thème, et en cliquant sur la ville de Tours, on va trouver tout ce qui s'y passe, et vous découvrirez aussi qu'il y a des manifestations, on va dire, pour des publics, on va dire, captifs. Alors il y en a un qui c'est dans le vrai sens du terme, puisqu'on va aller à la maison d'arrêt mercredi, mais aussi il y a des programmes pour les lycéens, qui ont déjà commencé ce matin. Et donc, ça vous donnera aussi une idée de ce qui est fait en dehors de ce à quoi on peut assister lorsqu'on n'est ni à la maison d'arrêt, ni dans les lycées.
Merci encore à vous. Je m'excuse à nouveau auprès de nos auditeurs pour nos petits cafouillages technique. Alors, je rappelle que cette émission sera réécoutée aujourd'hui même à 17h, si tout va bien, et à réécouter en podcast sur notre site. Merci à vous encore, Yves Tillet. Et on va terminer cette émission avec un peu de musique, puisqu'il paraît que ça adoucit les mœurs. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Merci beaucoup pour votre accueil et nous donner l'opportunité de diffuser toutes ces informations.
Avec plaisir. Oui, vive la recherche. Et on va écouter Mélodie Gardot.
Merci à vous, bonne journée.
Merci, bonne journée à vous.
Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde.